Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'Atelier des médias, vous êtes sur Radio France Internationale. Le 24 janvier 2018, une trentaine d'entités publient conjointement un texte. Son titre, Face aux poursuites Bayon de Bolloré, nous ne nous tairons pas.
Depuis 2009, plus d'une vingtaine de procédures en diffamation ont été lancées par Bolloré ou la SOCFIN en France et à l'étranger pour contourner la loi de 1881 sur la liberté de la presse contre des articles, des reportages audiovisuels, des rapports d'organisations non gouvernementales et même un livre. France Inter, France Culture, France Info, France 2, Bastamag, Le Monde, Les Inroc, Libération, Mediapart, L'Obs, Le Point, Rue 89, Greenpeace, React, Sherpa.
Le document est signé par une cinquantaine d'individus et d'organisations, des journalistes, des médias, des sociétés de journalistes et des ONG.
Au vu de l'ampleur, nous estimons que ces poursuites judiciaires s'apparentent à des poursuites Bayon. En multipliant les poursuites judiciaires dans des proportions inédites, quitte à les abandonner en cours de route, le groupe Bolloré en a fait une mesure de rétorsion quasi automatique dès que sont évoquées publiquement ses activités africaines.
Martine Orange, vous faites partie du collectif Informer n'est pas un délit ? Et vous soulignez que, à ce jour, il y a 23 procédures contre des journalistes.
Oui, de la recension qui a été faite, il y a eu 23 procédures engagées par le groupe Bolloré. Il y en a 8 qui ont été déjà jugées, où il les a toutes perdues, à ma connaissance, à l'exception d'une partie d'une procédure contre France Inter. Toutes celles qu'il a perdues, il est allé, je pense notamment à la procédure de Bastamag, il est allé jusqu'en cour d'appel et peut-être même en cour de cassation. C'est vraiment une volonté, non seulement de poursuivre, mais de poursuivre sans fin, si je puis dire, parce que 23 procédures qui ont pour l'essentiel trait à ses activités en Afrique, ça fait beaucoup, surtout que je dirais presque qu'il y a comme un déchaînement de procédures depuis 2008-2009. C'est avant, non, mais après, oui.
L'Atelier des médias.
Ziad Malouf.
Quand j'ai pris conscience de ce phénomène, ce déchaînement de procédures, pour reprendre l'expression de Martine Orange, il y a 4 mois, je me suis bien sûr interrogé sur la légitimité et la pertinence du concept de poursuite Bayon. Cette idée que l'on peut instrumentaliser, détourner la justice, la loi, pour faire taire des journalistes. Une pratique reprochée particulièrement en France à l'homme d'affaires Vincent Bolloré.
Le fait qu'il y ait des poursuites en diffamation, c'est tout à fait normal. Quand on publie des choses, on prend la responsabilité de pouvoir s'en défendre et de répondre. C'est pas ça le problème. C'est que là, dans le cas précis de Bolloré, nous estimons collectivement qu'on est dans autre chose. C'est-à-dire c'est de la plainte systématique pour empêcher les journalistes de s'intéresser à ces questions. Pour faire en sorte que l'idée même qui pourrait germer dans le cerveau d'un journaliste ne puisse pas apparaître, justement, de se dire « mais tiens, mais ça serait peut-être intéressant de s'intéresser à ce sujet-là. Pourquoi ne pas essayer de travailler là-dessus ?» C'est ça l'idée. C'est ça l'idée.
Marqué par la tribune du 24 janvier, par la violence qu'elle dénonce, inquiet de ce que représentent de telles pratiques de la part d'un acteur majeur de l'économie française, nous avons décidé d'en savoir plus sur les poursuites Bayon et sur ce que peuvent ressentir des journalistes face à la mise en cause publique de leur intégrité professionnelle. Ce travail mené par Antoine Saxe, Léo Caravagna, Simon De Creuse et moi-même donne lieu à 2 émissions que nous avons choisi d'intituler Les Bayonnais. Aujourd'hui, premier volet, Fanny Pigeot, Benoît Colomba et Martine Orange.
RFI.
Ne cherche pas à m'imposer toutes tes lois, n'en essaie pas. Je te le dis, tu n'y arriveras pas.
Quand on dit poursuite Bayon, il y a une tentative de nous mettre un Bayon, c'est certain. Il y a une tentative de nous faire réfléchir à deux fois avant d'écrire sur le groupe Bolloré et sur ses pratiques en Afrique, c'est certain.
Alors les procédures Bayon, c'est un terme qui est tiré finalement d'un acronyme américain qui émerge dans les années 80. Et cet acronyme américain, c'est, ça s'appelle SLAP. Alors SLAP, pour le S pour stratégique, le L pour lawsuit against public participation. SLAP en anglais, c'est aussi une baffe.
En général, la diffamation porte sur un passage bien précis d'un article ou d'un reportage. Mais là, ce qui était assez inhabituel, c'est que c'était la quasi-intégralité de mon reportage, qui faisait plus de 40 minutes, qui était poursuivi.
Quelques avertissements et précisions en introduction de cette émission. Tout d'abord, les entretiens que vous allez entendre ont été enregistrés avant la mise en examen, en avril dernier, de Vincent Bolloré, qui est soupçonné de corruption d'agents publics étrangers, notamment dans l'attribution des concessions portuaires de Lomé au Togo et Conakry en Guinée. Pour ce reportage, nous avons pris contact avec les entreprises citées et ou leurs avocats, quand nous avions les coordonnées de ces derniers, le groupe Bolloré, Vivendi, Socfin, Socapalm. Seul l'avocat de cette dernière, Socfin, Socapalm, nous a répondu pour souligner que la société qu'il représente est indépendante du groupe Bolloré avec lequel elle entretient simplement des relations capitalistiques. Troisième précision, depuis l'enregistrement de nos entretiens, quelques éléments ont évolué. Martine Oran, je mentionnais il y a quelques instants la possibilité que la plainte en diffamation du groupe Bolloré contre des journalistes de Bastamag soit jugée en cassation après une relaxe de Bastamag en première instance et la confirmation de la relaxe en appel. Il n'y aura pas de troisième jugement puisque la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du groupe Bolloré le 7 mai dernier.
Bonjour, je m'appelle Fanny Pigeot, je suis journaliste depuis près d'une vingtaine d'années. Je me suis spécialisée dès le début sur le traitement d'actualités africaines. J'ai notamment été basée au Cameroun pendant plusieurs années comme correspondante de l'agence France Presse.
Fanny Pigeot, vous êtes un cas original, on peut le dire, puisque vous êtes la première journaliste française à vous être intéressée d'un peu près aux activités africaines de Bolloré, ce qui à l'époque ne vous avait pas trop valu de problème, voire pas du tout.
Oui, à l'époque, je m'étais intéressée à un conflit social qui se déroulait dans une entreprise qui s'appelle la Socapalm et qui est liée au groupe Bolloré. Et donc, je m'étais rendue sur place, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs et voilà, j'avais fait un article qui montrait les difficultés des ouvriers dans cette plantation de palmiers à huile qui se trouve dans le sud du Cameroun. Et cet article que j'avais écrit avait été publié par le journal Libération. J'en avais fait un autre aussi pour l'agence France Presse.
De quoi est-ce que ça parlait exactement ?
L'article était centré sur un problème que rencontraient les ouvriers de la Socapalm qui étaient mal payés, voire pas du tout. Il y avait un problème avec beaucoup de sous-traitants utilisés par la société. Enfin voilà, il y avait un ensemble de questions qui se posaient. Et voilà, j'avais rencontré également d'ailleurs le directeur de la Socapalm à Douala. Et effectivement, l'article n'a pas vraiment posé de problème à l'époque au groupe Bolloré. En tout cas, il n'y a pas eu de poursuite.
Ensuite, vous avez pas mal de collègues qui sont appuyés sur votre travail pour revenir dans ces plantations. Et petit à petit, c'est devenu un sujet que plusieurs journalistes couvrent.
Bon, oui, moi j'ai fait mon travail. Hein. Il se trouve que c'était vraiment à l'époque un conflit dont parlaient les médias camerounais, donc il fallait s'y intéresser. Et d'autant plus que moi je travaillais pour la presse française. Il s'agissait d'un groupe français, donc pour moi c'était évident qu'il fallait aller regarder ce qui se passait et d'aller fouiller un peu voilà, dans les activités du groupe. Donc sur ce premier article que j'avais fait, j'ai pas été poursuivie, ni sur d'autres qui concernaient le port de Douala. Par contre, en 2012, j'ai fait un article qui ne parlait pas du groupe Bolloré, mais qui parlait d'une société américaine au Cameroun, toujours, qui avait un projet très controversé de plantation de palmiers à huile. Cet article a été publié par Libération et a été poursuivi par le groupe Bolloré qui, en fait, a tiqué sur la photo d'illustration de cet article qui était donc choisie par Libération et qui était une photo de la Socapalm, donc de la société à laquelle il est lié au Cameroun qui fait aussi des plantations de palmiers à huile. Et donc, ils ont tiqué non seulement sur la photo mais sur la légende qui accompagnait la photo. Donc voilà, ils ont attaqué l'article et m'ont poursuivi pour diffamation.
Précisément pour la légende.
Ça s'appuyait sur la légende, mais ensuite le reste de l'article était aussi était mis en lien avec la légende. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai été poursuivie. Et finalement, le procès a eu lieu et j'ai été relaxée.
Je précise qu'en revanche, Libération a été condamnée pour cette légende.
Alors aujourd'hui, lundi 5 mars, programme de votre journée ?
Eh bien, comme vous le savez, il y a un second procès qui m'attend, cette fois-ci pour un article qui concerne deux petits entrepreneurs au Cameroun. L'article que j'ai, sur lequel j'ai travaillé raconte que le groupe Bolloré n'a pas exécuté une décision de justice qui date de 1993 au Cameroun. Dans ce que j'ai trouvé pendant mon enquête, voilà, il n'y a rien qui prouve le contraire en tout cas. Donc j'attends de voir demain si des éléments sont apportés par le groupe pour montrer que cette décision de justice n'existe pas ou bien n'est plus valable. Enfin, toujours est-il que moi, les éléments que j'ai montrent que ce que j'ai écrit correspond à la réalité. Donc le procès qui m'attend est demain, donc aujourd'hui le programme c'est de préparer ma défense de demain et voilà, d'être au clair sur ce que je vais dire demain.
Quelles sont les questions que vous attendez ?
Bah, les questions des juges, ce sera de savoir si j'ai fait correctement mon travail, si j'ai pu consulter les différentes parties en jeu, et voilà, moi j'aurai à répondre là-dessus.
Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un petit peu d'anxiété quand même ?
D'anxiété ou de stress, je ne sais pas, mais oui, il y a un côté pas agréable, évidemment. Enfin, c'est jamais agréable de se retrouver devant des juges et de devoir se justifier de ce qu'on a écrit. Il y a eu une tribune qui a été publiée fin janvier, signée par un certain nombre de journalistes, mais aussi la plupart des sociétés de journalistes des principaux médias français, qui estime que cette politique suivie par le groupe Bolloré, qui consiste à poursuivre les journalistes qui se sont intéressés à ces affaires africaines, donc cette politique-là équivaut à des poursuites bâillons, c'est l'expression qui est utilisée, donc qui consiste finalement à essayer d'intimider ou de freiner le travail des journalistes.
Elle est appropriée, cette expression de procédure bâillon ?
Bon, en l'occurrence, pour mon cas, ça ne m'empêche pas de continuer à travailler sur le sujet du groupe Bolloré, ou du moins de m'intéresser dès que je vois quelque chose qui devrait être dit ou relaté. Bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à faire mon travail, en tout cas, que ce soit au sujet du groupe Bolloré ou d'autres entreprises françaises. Par contre, c'est vrai que c'est assez pénible d'avoir à préparer cette défense, puisque pendant ce temps, je ne fais pas les autres articles que je voudrais écrire. Donc voilà, ça me prend du temps et d'énergie, et c'est pas forcément très agréable de savoir que demain je serai face à des juges en tant qu'accusée.
Le lendemain de cet entretien, Fanny Pigeot se rend au tribunal de Nanterre, mais elle a appris dans la nuit que son procès sera probablement reporté.
Ce qui s'est passé, c'était assez simple. En fait, les deux parties se sont entendues avec le tribunal pour qu'il y ait un renvoi. Puis il y a eu un jeu d'écriture qui s'est fait un peu tardivement. Donc l'affaire a été renvoyée au 5 décembre 2018. Et l'audience qui aura lieu à ce moment-là sera assez longue, puisque je crois qu'ils ont compté 5 heures d'audience.
Mais vous étiez préparée psychologiquement pour aujourd'hui, là vous étiez prête et hop, la pression retombe d'un coup, comment, quel effet ça fait ?
Bon, en fait j'ai su hier soir que ce serait renvoyé puisque la partie adverse demandait un renvoi, donc non je savais, voilà, il n'y a pas de tension particulière, juste une perte de temps en fait. Oui. Donc il va falloir de nouveau préparer et puis voilà, prévoir toute une journée ici au tribunal, enfin en tout cas une bonne demi-journée au tribunal. Voilà, encore une fois, c'est pas un passage très agréable, mais il faudra bien y aller.
Bonjour. Quand on dit Vincent Bolloré en France, on pense surtout aux raids audacieux de cet homme d'affaires dans la finance, aux médias dont il est propriétaire, la chaîne de télé Direct 8 et le journal gratuit Direct Matin, ou encore au lancement annoncé récemment d'une voiture électrique, la Blue Car. On pense aussi à Nicolas Sarkozy, dont il est si proche qu'il lui a prêté son yacht pour 3 jours de repos au large de l'île de Malte, juste après sa victoire à l'élection présidentielle en mai 2007. On pense moins à l'Afrique, et pourtant, c'est sur ce continent que se situe une part importante des investissements du groupe Bolloré.
Bonjour Benoît Colomba.
Bonjour.
Vous êtes un pionnier en France parce que vous êtes le premier à avoir eu des problèmes suite à un travail sur les activités africaines du groupe de Vincent Bolloré.
Oui, alors il s'agissait d'un long reportage diffusé dans l'émission Interception sur France Inter, un reportage qui s'intitulait Cameroun, l'Empire Noir de Vincent Bolloré et qui explorait les activités économiques de Vincent Bolloré au Cameroun. L'idée, tout simplement, c'était d'aller sur le terrain, prendre la mesure de l'importance de Vincent Bolloré dans les différents secteurs économiques du Cameroun. En l'occurrence, là, il s'agissait du port, du train, et des plantations.
On peut préciser donc le port de Douala. Les plantations, c'est l'entreprise Soka Palm.
C'est ça.
Et le ferroviaire, c'est Camrail.
Et le ferroviaire, c'est Camrail, une société ferroviaire qui a été privatisée à la fin des années 90. L'idée, c'était de recueillir la parole des personnes sur le terrain, des Camerounais liés au ferroviaire, liés au port, d'essayer de rencontrer des travailleurs, des syndicalistes, des représentants de la société civile, pour essayer de faire une photographie, finalement, de ces activités-là.
Deux jours après la diffusion du reportage sur France Inter, Benoît Colomba, vous êtes l'objet d'une plainte pour diffamation de la part de Vincent Bolloré.
Oui, une plainte en diffamation qui revêtait un caractère assez inédit parce que, en général, la diffamation porte sur un passage bien précis d'un article ou d'un reportage, voire quelques passages. Mais là, si vous voulez, ce qui était assez inhabituel, c'est que c'était la quasi-intégralité de mon reportage, qui faisait plus de 40 minutes, qui était poursuivi. C'est-à-dire que je me retrouvais dans la position de devoir amener des éléments de preuve et de bonne foi pour la quasi-intégralité de mon reportage. Et ces poursuites, d'une certaine manière, ont marqué le début d'une très longue série de poursuites judiciaires contre quasiment tous les journalistes qui vont évoquer les activités africaines de Vincent Bolloré.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr
L'atelier des médias, les bâillonnés. Une enquête d'Antoine Saxe qui donne la parole à des professionnels de l'information qui s'estiment victimes de poursuites bâillons. Cette manière d'abuser du droit et de la justice pour faire taire des journalistes un peu trop curieux. Une méthode employée selon plusieurs organisations non gouvernementales par le groupe Bolloré ainsi que Vivendi et la SOCFIN.
À l'époque, c'est vrai qu'il y avait encore assez peu de journalistes qui s'intéressait à Vincent Bolloré. Il y avait eu Fanny Pigeot, qui avait été une des premières à décrire les activités dans les plantations. Mais c'est vrai que c'était pas encore quelque chose. Il y avait quelques ouvrages, tout de même. Il y avait quand même quelques livres de journalistes qui avaient été réalisés. On avait beaucoup parlé de Vincent Bolloré après l'élection de Nicolas Sarkozy, avec l'épisode du Fouquet's, puis surtout du yacht de Vincent Bolloré. Mais ses activités africaines n'avait pas encore été énormément mis en pleine lumière dans des grands médias, je précise, dans des grands médias. Bien sûr, les activités africaines de Vincent Bolloré avaient été décrites et documentées par des associations, je pense notamment à Survie, ou par certains ouvrages, mais on va dire qui quand même étaient connus de certains initiés uniquement. Il y avait eu une série d'articles assez remarquables de Martine Orange, je l'ai dit tout à l'heure, sur le site Mediapart, qui parlait de la sphère financière de Vincent Bolloré. Mais
c'est un point important. À l'époque, Mediapart était encore un média assez jeune, pas très connu, il n'y avait pas eu toutes les affaires Bettencourt, Karachi, Cahuzac, etc., qui ont mis vraiment Mediapart sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, un des représentants de la communication de Vincent Bolloré l'a dit à l'audience ou autour des audiences, on n'a pas poursuivi Mediapart parce que, en poursuivant, finalement, on aurait fait de la publicité à ses articles. Là, c'était différent. C'était le service public, c'était Radio France, c'était une émission de grande écoute, le week-end, 45 minutes. Donc, comme l'a encore dit un des représentants de Bolloré au tribunal, il fallait faire un exemple.
Donc il y a la plainte et puis arrive le procès. Racontez-nous cette journée du 15 décembre 2009 et les deux suivantes. Ça a été une sorte de calvaire, hein, quand même, je crois.
On a un peu l'impression tout d'un coup de se retrouver face à une sorte de rouleau compresseur avec beaucoup de témoins qui sont amenés en avion sans aucun problème depuis le Cameroun. Évidemment, Radio France ne dispose pas des mêmes moyens que le groupe Bolloré, ça se saurait, où là vous avez des avocats, un service de communication, une machinerie qui est quand même extrêmement bien huilée. Et puis évidemment, le but c'est d'essayer de noircir le tableau au maximum, c'est-à-dire de me présenter, mais comme ça va être le cas pour tous les autres journalistes, hein, ça n'est pas spécifique à ma personne, mais de présenter mon travail comme quelque chose de partisan, de militant, et que voilà, c'est une grande entreprise qu'on veut salir, etc. Alors que ce que j'ai expliqué au tribunal, c'est que non, j'étais et je suis toujours dans une démarche journalistique, c'est tout, et qu'il est tout à fait légitime de questionner l'activité d'un groupe aussi puissant que celui de Bolloré.
L'exemple, malheureusement pour vous, ça a été que Jean-Paul Cluzel, le président de Radio France, et vous-même, êtes condamnés à 1 euro de dommages et intérêts, une amende de 1 000 euros, plus 10 000 euros de frais de justice.
C'était plutôt au niveau du symbole de la condamnation, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, de mon point de vue, c'est que le tribunal a coupé la poire en deux. C'est-à-dire que, comme je le disais, quasiment toutes les missions étaient poursuivies, donc ça veut dire que à l'audience, pied à pied, phrase par phrase, on a sous-pesé au trébuchet, et c'est normal, c'est le principe de la diffamation, amener les éléments de preuve, amener la bonne foi, montrer qu'il y a eu contradictoire ou volonté d'avoir le contradictoire.
Alors, au final, il y a quatre passages qui ont été jugés diffamatoires.
Alors, notamment un passage qui concernait les investissements dans le rail. Il y avait également un passage qui concernait les conditions de travail sur le port, avec certains employés qui faisaient état de menaces ou de pressions. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de preuves assez importantes là-dessus. En revanche, toute la partie qui était assez conséquente sur les conditions de travail extrêmement problématiques et critiquables dans les plantations, là-dessus, le tribunal m'a relaxé. Si vous voulez, c'est très difficile dans ce type de reportage ou d'investigation déjà de requérir la parole sur le terrain dans des conditions qui sont pas assez évidentes parce que vous vous faites arrêter dès que vous expliquez que vous travaillez sur Bolloré au Cameroun comme dans d'autres pays d'Afrique, c'est quand même assez compliqué. Tous mes autres confrères qui par la suite ont travaillé sur le sujet ont été confrontés exactement au même problème. Je pense notamment à mon confrère Tristan Walex qui lui aussi a enquêté sur le sujet et qui a eu le prix Albert Londres pour son reportage sur les activités de Bolloré en Afrique. Bah, lui aussi, il s'est fait arrêter, on a voulu lui prendre son matériel, sur place les représentants de Bolloré n'ont pas voulu lui parler, exactement le même scénario. Donc c'est quand même assez compliqué sur le terrain. Donc moi j'ai amené tous les éléments les plus documentés et probants évidemment que j'avais. Après le tribunal, ça se passe à l'audience, on amène des éléments, c'est... Bon, voilà, à un moment, il y a un jugement qui tombe qui est basé sur l'analyse de tous ces éléments-là. Moi, de mon point de vue, j'étais dans mon bon droit et j'ai effectué mon travail de la façon la plus sérieuse possible.
Dans le livre qui s'intitule « Informer n'est pas un délit », vous avez signé un paragraphe qui s'appelle « La stratégie des filets dérivants », dont vous pensez avoir été victime. Qu'est-ce que cette stratégie ?
La stratégie des filets dérivants, c'est le fait de poursuivre tous les propos qui sont diffusés en lien avec les activités de Vincent Bolloré en Afrique, en se disant, bon, on va peut-être pas gagner à chaque fois. Si on l'emporte sur tel ou tel point, eh bien, ça sera une victoire et on pourra la mettre en avant et l'instrumentaliser finalement du point de vue de la communication du groupe. Et c'est un signal qu'on envoie à tous les journalistes pour leur dire, écoutez, ne vous intéressez pas à ces sujets, il n'y a que des coups à prendre, occupez-vous d'autre chose. C'est ça la stratégie des fils dérivants. Évidemment, dans ces cas-là, quand vous vous retrouvez dans des procès comme celui-là, c'est vous retrouvez à devoir tout organiser, etc. Donc c'est quand même pas mal de votre temps, de votre énergie qui est mobilisée, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça se passe sur un temps assez long. C'est-à-dire que pour arriver à 2 jours ou 3 jours d'audience, il y a des semaines, voire des mois qui précèdent. Comme je dis toujours, quand vous préparez votre défense, pendant ce temps-là, vous ne faites plus du journalisme. C'est-à-dire que ce soit pour enquêter sur les activités de Vincent Bolloré ou toute autre chose. C'est quand même, me semble-t-il, ça un des effets poursuivis, et a fortiori quand il s'agit de poursuites en rafale contre tous les journalistes, c'est-à-dire que vous mobilisez leur temps et leur énergie à faire autre chose, donc en l'occurrence à convaincre des témoins de venir à la barre, ce qui n'est pas forcément évident quand il s'agit d'un procès en diffamation qui concerne Vincent Bolloré, à organiser votre défense, etc. Et donc, à essayer de vous, pour prendre une expression un peu imagée, de vous épuiser finalement en poursuite judiciaire et à vous sortir de votre salle de rédaction.
Du point de vue du groupe Bolloré, la stratégie, ce que vous appelez la stratégie des filets dérivants, a fonctionné, puisque toute condamnation validée par un tribunal est une petite victoire, voire une grande victoire pour l'argumentaire du groupe.
Oui, alors ça, je sais pas, il faut leur demander, mais quand même, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que, d'un point de vue factuel, mon procès a marqué le début d'un changement de stratégie, d'une stratégie très affirmée du groupe Bolloré. On poursuit à partir de maintenant tout ce qui se dit sur le groupe. Mais d'un autre côté, peut-être paradoxalement, mon procès a mis le projecteur tout d'un coup sur les activités de Bolloré en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de journalistes qui s'y sont intéressés, même s'il n'y a pas eu énormément de compte rendu dans la presse, mais il y a eu une attention particulière, me semble-t-il, qui a été portée à cette audience. Et de fait, par la suite, et on l'a vu dans les derniers mois, les dernières années écoulées, il y a eu plusieurs reportages ou articles sur les activités de Bolloré, et notamment, puisque ça c'est quand même un point de fixation assez important, sur les plantations. Des associations, des journalistes, des ONG se sont intéressés à ces activités-là.
Alors finalement, ça y est, on a réussi à entrer à l'intérieur de la plantation. Après négociation avec le gardien à l'entrée, on va essayer de voir avec un responsable sur place.
Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Colomba de monsieur. Radio France, France Inter.
Okay.
J'ai monsieur Pajot au téléphone.
Oui.
On devait se voir là cet après-midi.
Oui.
Il a eu un petit contretemps ou...
Non, je vais tenter de la voir. Il est
Donc si on peut pas le faire avec lui, on peut peut-être le faire avec vous. Juste que vous nous montriez...
Non, vous savez que chez nous, on est hiérarchisé. Si on peut...
Oui, mais il faut qu'on puisse, parce que nous, on n'est plus sur...
Nous, on ne peut pas prendre l'initiative de le faire.
Benoît Colombin, vous évoquez en décembre 2011, toujours sur France Inter, l'existence d'une action auprès de l'OCDE de la part d'associations qui s'occupent d'environnement au Cameroun. Et là, paf, deuxième plainte de Bolloré.
Oui, là il s'agit de la révélation d'une action engagée par toute une série d'ONG africaines, camerounaises et françaises. Pour la France, c'est l'ONG Sherpa, qui saisissait, alors ce n'était pas une plainte judiciaire, mais qui saisissait l'OCDE, les points de contact de l'OCDE, pour être tout à fait précis. C'est une procédure qui est peu connue du grand public, mais qui est connue du monde associatif et qui consiste à alerter
des représentants de l'OCDE sur des pratiques qui pourraient poser problème, des pratiques d'entreprise partout dans le monde. Et donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'ont fait ces associations pour les conditions de travail dans les plantations au Cameroun et l'impact environnemental, donc avec le Citruc 89. Et donc moi, France Inter, on révèle l'existence de cette action. Et là, à nouveau, plainte en diffamation de Vincent Bolloré.
Alors cette fois, vous en tirez un peu mieux, puisque l'OCDE finit par conclure que Socapalm ne respecte pas ses principes, hein, donc les principes directeurs de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. La plainte est retirée.
Ce qui se passe, c'est que, encore une fois, l'idée, c'est de mettre la pression sur les journalistes, donc les procédures durent un long moment, l'action de l'OCDE continue, suit son chemin, et puis au fil du temps, au bout de plusieurs mois, voire de plusieurs années, avant que l'audience ne se présente, et puis, eh bien, le groupe Bolloré retire sa plainte. Il l'a fait également dans plusieurs autres occasions, je pense notamment à une personne que j'avais fait citer comme témoin, à mon procès, qui est une photographe et qui avait pris des photos dans les plantations au Cameroun à peu près à la même époque que moi. Et il se trouve que cette photographe que j'avais fait citer pour mon procès,
Madame Rick,
Isabelle Rick, a été également elle-même poursuivie par le groupe Bolloré pour des propos qu'elle avait tenus dans une émission de radio, sur France Inter d'ailleurs, une autre émission de radio, émission dans laquelle elle évoquait son travail, ses photos sur le terrain. Même chose, mais au bout d'un certain temps, la plainte a fini par être retirée. Mais si vous voulez, voilà, la plainte est retirée, mais au bout d'un long parcours, pendant ce temps-là, il faut vivre avec ça, ce qui n'est pas toujours évident, mais le signal a été envoyé.
Et alors là, plus récemment, donc, suite à votre chapitre dans le livre « Informer n'est pas un délit », troisième plainte, est-ce que vous êtes bâillonné, Benoît Colomba ?
Alors, la dernière plainte, elle concerne un article que j'ai écrit dans un livre collectif qui s'appelle « Informer n'est pas un délit ». C'est un livre qui fait le tableau, finalement, des difficultés aujourd'hui pour les journalistes d'exercer leur travail, notamment quand on s'intéresse à un certain nombre d'activités, et notamment le secteur économique. Et donc, dans ce livre, je raconte, je reviens sur mon procès. Mais pas seulement, parce que là, ça n'aurait guère d'intérêt si c'était juste pour parler de mon procès. Là, en l'occurrence, j'expliquais, je racontais justement le tournant stratégique pris par le groupe Bolloré à ce moment-là, et je racontais les plaintes en rafale qui ont suivi et cette stratégie de la plainte bâillon, parce que c'est ça. Moi, je ne me sens pas, moi, personnellement, bâillonné, c'est quelque chose de collectif. C'est pour ça qu'on a publié récemment une tribune collective pour dénoncer ces plaintes bâillon. C'est pas une question de personne, c'est pas une question d'individu, c'est une question à un moment de stratégie qui s'inscrit dans un paysage audiovisuel. C'est-à-dire que, à mon sens, Bolloré, s'il peut agir de cette façon-là aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, on voit bien quel est l'état désastreux des médias en France. Bon, tout ça est très connu, que la majorité des médias sont contrôlés par très peu d'hommes d'affaires. On voit bien que dans notre métier, une extrême précarisation qui gagne du terrain. On voit bien la difficulté aujourd'hui d'effectuer un travail soutenu dans la durée. Le nerf de la guerre, c'est le temps et c'est le choix. La possibilité d'avoir le choix vraiment de travailler sur certains sujets et de creuser pendant un certain temps.
Atelier@rfi.fr. Congolais, Congolais. Congolais, Congolais. Congolais, Congolais. Ambadi ya kalandolo kukisanto, ananye. Ambadi ya kalandolo kukisanto, ananye. Ambadi ya kalandolo kukisanto, ananye. Kukisanto bantela mbiki kilendi tovu tukadia kakoi.
On entend l'arbre qui tombe, mais pas la forêt qui pousse. Réfugié dans ma pardon, le blues, le lac en brousse.
mon rappeur préféré. Crois que l'Afrique est un pays. Plafond de verre cassé, se qualifier en CDI. Black Micmac, pour au pack, à chaque coin, coup de matraque qui part.
Les kotata tokenena kanyama, ils savent bien. Tata, est-ce que toza kokenena kanyama? Malobi nangana zonga kanyama te.
Depuis 10 ans, une vingtaine de procès ont été intentés contre des journalistes et des médias français ayant enquêté sur les investissements du groupe Bolloré en Afrique. Ces attaques ont été qualifiées par de nombreuses ONG de poursuites Bayon, dont le but est de faire taire. L'Atelier des médias consacre 2 émissions à ce phénomène. Aujourd'hui, premier volet avec Fanny Pigeot, Benoît Colomba et Martine Orange.
Donc Martine Orange, je suis journaliste économique à Mediapart et je m'occupe de beaucoup de sujets qui sont aussi bien des sujets de micro-économie que de macro-économie.
En 2011, vous avez écrit un article qui parlait d'un marché gagné par le groupe Bolloré en Libye. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi ça parlait ?
Bien sûr, c'était un article que j'avais écrit juste après la chute de Kadhafi, où je remarquais que quelques semaines auparavant, c'est-à-dire en janvier 2011, Kadhafi était encore considéré comme le meilleur ami de la France. Bolloré, qui était très proche de Nicolas Sarkozy, signait un accord qui était considéré comme exceptionnel, puisqu'il obtenait la concession du port de Misrata. Misrata étant à la fois un port de containers, si je puis dire, de transport de marchandises, et un port pétrolier. Et c'était une nouvelle d'autant plus exceptionnelle que jusqu'à présent, la Libye avait gardé le contrôle de l'ensemble de ses activités portuaires et ne faisait aucune concession. Donc le fait que le groupe Bolloré remporte une telle concession en Libye était extraordinaire, puisqu'en plus de ça, il avait obtenu l'autorisation de créer une zone franche pour faire une gare container et des services de logistique. C'était très important pour lui puisque le groupe Bolloré a beaucoup de ports, aussi bien sur les côtes Atlantique, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, que sur les côtes de l'océan Indien en Afrique de l'Est, mais il n'a jamais réussi à s'installer en Méditerranée. Donc pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire et tout le monde était très surpris de ce contrat hors norme, si je puis dire. Et donc je rappelais que quelques temps avant, en janvier, il signait un tel contrat avec Kadhafi et que moins de 2 mois après, on déclarait la guerre à Kadhafi et que c'était un revirement inattendu de la part à la fois du gouvernement français et de ses principaux amis. Voilà.
Dans cet article, quelles étaient les révélations qui ont provoqué, les révélations, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais les informations qui ont provoqué la réaction du groupe Bolloré ?
Par la suite, celui-ci a décidé d'engager des poursuites judiciaires contre moi par citation directe, ce qui impose une mise en examen automatique des journalistes qui écrivent le sujet. Et donc, bien que j'avais longuement interrogé à la fois le responsable du groupe Bolloré en Afrique et eu des réponses de l'avocat du groupe Bolloré, il estimait que ne serait-ce que citer cette information de janvier où il avait obtenu la concession du port de Misrata était déjà une atteinte, en sachant que cette information avait été publiée en premier par le Figaro à cette date-là. C'est d'abord cette information qu'il poursuivait, ce qui était un peu original, puisque le Figaro, bien évidemment, 2 mois avant, n'avait pas été poursuivi pour avoir publié cette information.
Et ne l'a jamais été par la suite ?
À ma connaissance, jamais.
Comment est-ce que vous avez réagi à votre mise en examen ?
Un peu sidéré, parce que si vous voulez, quand on arrive jusqu'à poursuivre des extraits qui n'avaient pas été poursuivis, C'est toujours s'il ne poursuivait pas les citations de son propre directeur logistique. Donc, à un moment, vous êtes un peu dans la stupeur, puisque j'avais des citations que j'écrivais au style indirect, et là, il les poursuivait aussi. Donc, vous dites que vous ne comprenez pas.
Est-ce que c'était votre première mise en examen pour un article ?
Non, 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 ça m'est déjà arrivé avant. Là où c'est très compliqué, c'est le mode maintenant qu'utilisent les gens mis en cause pour poursuivre les articles de presse. C'est-à-dire que normalement, vous avez un droit de la presse qui est très encadré avec droit de réponse, mise en diffamation, etc. Et là, ils utilisent une autre procédure qui, comme je vous disais, la citation directe, où il y a un juge d'instruction qui est donc réquisitionné, qui instruit le dossier, mais qui n'a pas le droit de faire autre chose que de constater que vous êtes bien l'auteur de l'article et que vous l'avez bien publié ce jour-là. C'est-à-dire qu'on mobilise à la fois d'abord un agent de police, puis après un juge d'instruction, juste pour faire des choses aussi évidentes de est-ce que vous êtes bien l'auteur de l'article et est-ce que vous l'avez bien publié le temps, ce qui est assez passionnant pour un juge d'instruction. Et puis après, vous êtes la procédure fait que vous êtes mis en examen automatiquement, il n'y a aucune enquête au préalable, il n'y a aucune pression de choses, et que tout se joue à l'audience. Et c'est que nous sommes là dans une instrumentalisation de la justice qui me paraît vraiment disproportionné, puisque vous imaginez, on mobilise des tas de gens pour juger toute cette plainte, et même si la procédure est abusive, les sanctions pécuniaires qui sont derrière sont tellement légères qu'il n'y a rien de dissuasif. Or, c'est aussi de l'argent public, quoi. Je veux dire, je comprends tout à fait que les gens défendent leur cause s'ils s'estiment diffamés, etc., etc. Mais multiplier les procédures comme ça, qui sont en fait, qui aboutissent à des manœuvres d'intimidation, où d'abord ça coûte beaucoup d'argent pour les journaux. Mediapart a les moyens, donc il peut faire face à ces procédures pénales, mais Bastamacq, par exemple, qui a été poursuivi, pour eux, c'était un avocat, c'est beaucoup d'argent, quoi, je dirais ça. Et ça mobilise beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et sans qu'il n'y ait de sanctions pécuniaires suffisantes à côté qui empêchent des procédures qui sont injustifiées, c'est ça, ça me choque beaucoup.
Vous êtes poursuivi? Et puis, coup de théâtre ?
Eh bien, coup de théâtre, c'est-à-dire une semaine avant l'audience, l'avocat du groupe Bolloré contacte notre avocat et dit finalement il voudrait renoncer à l'audience en contrepartie d'une mise au point. Alors, après négociation, c'est l'avocat qui a écrit un texte de mise au point qu'on a publié, rattaché à l'article qui ressemble, bon, enfin, si ça leur faisait plaisir, etc. Mais je pense qu'ils se rendaient compte que ça serait un peu compliqué de poursuivre cet article, puisqu'il n'y avait pas de... Enfin, tout y était, tout le monde avait été interrogé, et que c'était un peu difficile d'expliquer pourquoi on poursuivait cet article.
Mais comment est-ce que vous expliquez la tentative, tout du moins ?
Je pense que c'est une tentative d'intimidation de Bolloré vis-à-vis de tous les médias, où il refuse où il ne veut absolument pas voir son nom cité dans la presse, et encore moins quand il s'agit des affaires africaines, où là ça devient un chiffon rouge. Bolloré, à la limite, vous pourrez écrire tout ce que vous voulez sur Vivendi, sur sa gestion de Canal+, etc. Mais toucher à l'Afrique, et à partir de ce moment-là, devient un chiffon rouge pour lui. C'est une zone sur laquelle la presse ne doit pas regarder, ne doit pas enquêter.
Donc quand on parle du groupe Bolloré en Afrique, on parle de ce qui était le groupe Rivo.
Pas uniquement, puisque le groupe Bolloré a un certain nombre d'activités en Afrique. Il y a effectivement le groupe, la suite du groupe Rivo, donc Soca Palm, etc. Toutes les plantations qui sont aussi bien au Cameroun, au Kenya, enfin tout ce qui fait le bois, l'huile de palme, y compris les roses. Vous savez qui fait des roses au Kenya, ou les semences, enfin toutes ces activités-là. Que les activités aussi qui sont, puisqu'il y a...
Toutes ces histoires, Soca Palm, Socfin, etc., ont valu des ennuis pas mal de vos confrères.
À tous les gens qui ont raconté ça. Mais toutes les affaires aussi, qui sont aussi l'autre partie du groupe Bolloré qu'il avait commencé à développer avant la prise de contrôle du groupe Rivo, c'est-à-dire les activités portuaires qu'il a développées à partir de la prise de contrôle de Delmas Viejo en 92, puis les activités de logistique et de transport, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il a Camrail, par exemple, qui fait le train au Cameroun, il a toutes les activités de logistique portuaire tout le long de la côte ouest de l'Afrique, il a pris le contrôle aussi de quelque chose d'immense, quand on sait ce que c'est-à-dire la caisse de compensation du cacao de café en Côte d'Ivoire, il a le contrôle d'un certain nombre d'activités de logistique et portuaire, que ça soit Conakry, Abidjan, vous avez eu un certain nombre même de procédures de privatisation qui ont été directement remises en cause par la Banque mondiale. Des conditions d'attribution, notamment sur la concession du port d'Abidjan, ont été critiquées, y compris par la Banque mondiale. Et tout ça, il ne veut pas qu'on en parle, quoi. Je veux dire, tout ça, c'est une boîte noire qu'il ne faut surtout pas que la presse ouvre.
Est-ce que cette plainte que vous avez reçue en 2011 a modifié votre façon de travailler sur le groupe Bolloré ?
Pas du tout, parce que j'avais pris déjà l'habitude de l'appeler, etc. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y a une chose que ça a modifié, c'est que maintenant, il y a un formalisme dans les relations avec les groupes Bolloré qui vous oblige à instituer. Donc à un moment, vous êtes obligé, quand vous enquêtez sur lui, de passer par son avocat, d'avoir des questions extrêmement formalistes qui n'ont rien à voir avec l'enquête, mais où vous pouvez arguer que vous avez pris toutes les précautions, vous publiez ces réponses in extenso pour montrer que vous n'avez pas caviardé une information qui serait essentielle pour prouver la bonne foi, quoi. Et on n'est plus du tout dans une enquête journalistique, il est normal d'interroger les gens, il est normal d'attendre leurs réponses, etc. Mais là, ça nous pousse à un formalisme procédural qui ne relève plus tout à fait de l'enquête.
C'était les Bayonnais, première partie, avec Fanny Pigeot, Martine Orange et Benoît Colomba. Merci à ces trois témoins. Une émission signée Simon Decreuse et Antoine Saxe, avec l'appui de Léo Caravagna et Ziad Malouf. L'atelier, c'est aussi Mathilde Saliou et Camille Deloche en coulisses. Rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième volet de cette émission. Nous serons avec Tristan Valex, Nicolas Vescovacci et Dan Israël.